BFM TV, affaire suivante. Ronald Guintrange, Dominique Rizet.
Dimanche 30 mars, il est 13h. Bienvenue dans Affaires suivantes numéro 291, consacrée exclusivement à la mort du petit Émile. Nous sommes un peu plus de 20 mois après la disparition du garçon de 2 ans. Nous reviendrons sur les nouveaux rebondissements de cette semaine. 4 gardes à vue dans la famille d'Émile, mais aucune mise en examen. Que cherchaient à savoir les enquêteurs? Quelles réponses leur ont été fournies? Toutes les informations à BFM TV dans un instant, Dominique.
Oui, pas de mise en examen, Ronald, mais des informations cruciales. Le crâne d'Émile présentait les traces d'un traumatisme facial violent. Ce sont les mots du procureur de la République. Alors, où le corps de l'enfant a-t-il été conservé avant d'être retrouvé il y a un an, jour pour jour? Affaire suivante fait le point sur les expertises et les analyses déjà réalisées.
Et maintenant, quelle suite? Les dernières perquisitions vont-elles invalider la piste criminelle? Le ou les responsables font-ils partie des 17 personnes présentes au Auvernais le jour du drame? Connaîtra-t-on un jour la vérité? C'est dans Affaire suivante.
Oui, c'est tout de suite, Ronald.
Et pour débuter, Dominique, cette émission spéciale consacrée donc à Émile, retour à la nuit de mercredi à jeudi, entre 3 et 6 heures du matin. Nous sommes dans les locaux de la gendarmerie de Marseille. Les gardes à vue du grand-père, de la grand-mère, d'un oncle et d'une tante du petit garçon sont levés. Aucune charge retenue et à 10h30, le procureur d'Aix-en-Provence, qui s'installe devant les caméras pour une conférence de presse, sa deuxième prise de parole dans l'affaire, Jean-Luc Blachon évoque deux éléments cruciaux, les traces d'un traumatisme facial violent, mais aussi l'intervention d'un tiers dans la disparition et dans la mort d'Émile. Pierre-Louis Bousset.
C'était il y a un an, presque jour pour jour. Dans une zone boisée et escarpée près du Auvernais, des ossements ainsi que des vêtements appartenant au petit Émile étaient retrouvés. Le périmètre avait pourtant déjà fait l'objet de fouilles. Aujourd'hui, les autorités l'affirment, ces éléments ne se sont pas retrouvés ici par hasard.
Les conclusions de ces expertises permettent désormais de considérer que les vêtements et les ossements retrouvés ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Permettre de considérer l'hypothèse que le corps n'est pas demeuré au même endroit et dans le même biotope au cours du processus de décomposition et qu'il n'a pas été enfoui.
Les expertises réalisées sur le crâne d'Émile révèlent aussi des stigmates évoquant un violent traumatisme subi au niveau du visage. Pour les autorités, ces éléments accréditent la thèse de l'intervention d'un tiers dans la mort du garçonnet. C'est ce qui justifie les qualifications d'homicide volontaire et recèle le cadavre lors des gardes à vue des grands-parents, d'un oncle et d'une tante d'Émile. Tous les quatre ont finalement été relâchés sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Des gardes à vue qui s'inscrivent dans une enquête aux dimensions hors normes. 3141 signalements reçus et vérifiés. 27 véhicules analysés via des moyens de police scientifique et près de 90 perquisitions judiciaires et numériques, selon les autorités.
Chaque indice, chaque trace physique, chaque trace numérique, chaque signalement, chaque témoignage fait l'objet d'investigations qui sont minutieuses, précises, et nous allons au bout de chacune de ces investigations.
Les enquêteurs préviennent, si la piste familiale a pu être approfondie par les gardes à vue, elle n'est à ce stade toujours pas écartée.
Et Dominique, sur le plateau d'affaires suivantes consacré donc exclusivement à cette affaire, nous accueillons à vos côtés Johanna Rosenblum. Bonjour Johanna.
Bonjour Johanna.
Psychologue clinicienne, consultante BFM TV. Boris Karlamov, journaliste police, justice BFM TV, qui a suivi évidemment cette affaire depuis 20 mois. Face à vous, en tout cas physiquement, le colonel Bruno Cézac. Bonjour. Bonjour. Ancien colonel de gendarmerie, retraité de la police judiciaire. Florence Roys, avocate pénaliste. Merci également d'être présent, ainsi que le général François Daousse. Merci de votre participation, ancien directeur de l'IRCGN et du pôle judiciaire de la gendarmerie. Professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy-Pontoise, et pour toutes celles et ceux que ça intéresse, et ils sont nombreux à nous regarder aujourd'hui, votre ouvrage co-signé avec Jacques Pradel, police technique et scientifique, Le choc du futur. Dominique, c'est seulement la deuxième fois que Jean-Luc Blachon, le procureur, prend la parole.
Oui.
Ça veut donc dire qu'on attendait, qu'on espérait évidemment des pas vers la vérité.
Oui, et le procureur de la République nous a révélé des informations qu'on n'avait pas jusqu'ici et qui nous permettent de mieux comprendre les chefs de mise en accusation dans les mises en examen, hein, homicide volontaire et recel de cadavre. Voilà, ce que l'on a appris définitivement, c'est que Émile ne s'est pas perdu, c'est maintenant une certitude, qu'Émile a été frappé, on parle d'un fracas facial
violent,
que le corps d'Émile a été remisé quelque part avant d'être transporté dans les jours qui ont, ou les semaines qui ont précédé sa découverte, là où on l'a retrouvé. On apprend aussi que la piste familiale, même si à l'issue des gardes à vue, le grand-père, la grand-mère, le frère, le fils et la fille, donc, ont été remis en liberté, que la piste familiale reste une piste envisagée par les enquêteurs. Voilà ce que l'on sait. Et on sait, dernière chose, que des éléments sont partis pour analyse. La voiture du grand-père, le van, la remorque à chevaux, le van du grand-père. Et en attendant les retours de toutes ces expertises, on a des éléments sur la personnalité du grand-père qui ont été révélés par nos confrères, citons-les, du Parisien et de TF1, et qui sont des éléments sur les écoutes téléphoniques de la famille qui pose question sur le comportement violent du grand-père.
Florence, ça commence par les gardes à vue, avant de revenir au mot du procureur. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un procureur déclenche une garde à vue ?
Alors là, en l'occurrence, c'est le juge d'instruction qui est en charge du dossier de juge d'instruction, qui, sur commission rogatoire, demande aux gendarmes de placer en garde à vue telle ou telle personne pour tel et tel motif. Ce qui fait que il y a une décision comme celle-ci, c'est que le code de procédure pénale, en son article 62-2, pour être très précise, nous dit qu'il faut qu'il y ait des raisons plausibles de penser que ces personnes ont commis ou tenté de commettre telle ou telle infraction. Voilà les motifs, voilà ce qui motive un placement en garde à vue en visant qualifications pénales, en l'occurrence l'homicide volontaire et le recel de cadavres, probablement en fonction d'éléments dont dispose le magistrat instructeur, les magistrats instructeurs, suite aux investigations qui ont été menées par les gendarmes.
Colonel Cazac, il y a un patron de section de recherche à Marseille et ses hommes qui ont auditionné le grand-père, la grand-mère, fils, fille, et qui les ont remis en liberté parce qu'ils n'avaient pas les réponses, en tout cas qu'ils espéraient peut-être à leurs questions. Là, c'est retour à la section de recherche, retour à l'enquête. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Est-ce qu'on a le sentiment d'avoir échoué à ce moment-là ? Pas forcément, mais enfin, de pas avoir réussi à trouver le point d'entrée, on recommence ça, qu'est-ce qu'on fait ?
Écoutez, je crois qu'il faut faut avoir un regard pragmatique sur cette situation. Comme le disait Maître, la prise de mesure de garde à vue, même si dans la grande majorité des cas en France, la garde à vue est une mesure prise à l'initiative des officiers de police judiciaire, en l'occurrence, elle a inévitablement été prise en étroite concertation entre les juges d'instruction et le commandant de la section de recherche de Marseille qui dirige l'enquête. En étroite concertation, parce que même si les magistrats peuvent parfois dire « écoutez, on aimerait bien que vous placiez telle ou telle personne en garde à vue », encore faut-il que les enquêteurs leur disent « oui, mais on est prêt ». Parce que si on n'est pas prêt, on prend le risque de mettre le processus de garde à vue en échec ou de le rendre fragile. C'est pas le but de l'exercice, comme je l'ai déjà précisé en d'autres temps. La garde à vue aujourd'hui, c'est une mesure qui vient après un gros travail préparatoire et qui vise à combiner les actions sur le terrain et tous les actes techniques et scientifiques dont le général Daous parlera probablement, et puis les actes d'enquête proprement parler. Alors pour répondre directement,
qu'est-ce qu'on fait de retour à l'ASR ?
Là, dans une situation comme celle-là, quatre personnes gardées à vue pendant 48 heures, plus toute une série d'investigations qui ont été menées de manière connexe, on va tout reprendre, on va tout remettre à plat au sein de la cellule d'enquête. Et là, d'expérience, on va faire mouliner nos analyses criminelles. C'est-à-dire qu'on va reprendre toutes les auditions, on va rentrer toutes les données essentielles dans le logiciel et les analyses criminelles.
Je vous interromps juste, vous allez continuer, mais juste pour le téléspectateur, on a écouté ce que disait le procureur et il y a des chiffres qui sont édifiants sur ce qui a été fait, la procédure. Je vous laisse continuer, mais juste ils vont s'afficher. 3141 signalements, 287 auditions de témoins, 55 millions de données de communication traitées. On est dans une enquête hors norme. Pardon, je vous laisse.
C'est une enquête hors norme à la fois par la masse et le volume des données de toute nature qui sont traitées, et puis par le contexte même de l'affaire. Donc là, on est vraiment dans une situation, comme un commandant de section de recherche peut en rencontrer une fois dans sa carrière, ou peut-être même pour la grande majorité, jamais.
On met ça dans le logiciel,
on fait mouliner les analyses criminelles, qui vont récupérer toutes les données qui ont été recueillies pendant les gardes à vue, et qui vont les remettre en perspective avec ce fameux logiciel Anacrim. Et puis, on va attendre aussi les résultats des expertises qui sont en cours sur le véhicule qui a déjà été restitué et l'autre qui est toujours en entre les mains des enquêteurs pour des recherches approfondies. Parce que vous imaginez qu'un vent, avant de trouver les éléments de recherche des enquêteurs.
Parce qu'il est censé avoir transporté des chevaux. Donc les traces peuvent être multiples et complètement.
Vous pouvez tout type de traces. Et il y a deux types de démarches dans ce cadre-là. Soit on prend un véhicule et puis on va ratisser tout ce qu'on peut y ratisser parce qu'on est à la recherche d'informations qui vont nous permettre d'orienter l'enquête. Il me semble qu'à ce stade, on a déjà dépassé cette échéance. Et il est fort possible que les techniciens en identification criminelle qui travaillent sur ce véhicule savent ce qu'ils veulent rechercher, ce qui va leur permettre de faire une discrimination a priori des différentes traces qu'ils vont trouver dans le véhicule. Encore une fois, sous le contrôle du général. Donc, un travail mixte d'approfondissement et d'analyse des informations recueillies pendant la garde à vue et l'attente des expertises qui sont menées sur les véhicules saisis.
Alors, qu'est-ce qu'Anacrim peut sortir, le logiciel Anacrim? On a demandé au grand-père, est-ce que vous frappiez vos enfants? La réponse est non. Est-ce que vous avez frappé Émile? La réponse est non. Aux enfants, on a demandé, est-ce que votre père vous frappait? Je ne sais pas ce qu'ils ont répondu. À la mère, on a demandé, est-ce que votre mari frappait vos enfants? Est-ce qu'il était violent? C'est pas ce qui a été répondu. Qu'est-ce qu'Anacrim va sortir de tout ça?
Alors, Anacrim, quand on bascule toutes ces données, les procès-verbaux, les déclarations, les témoignages, etc., fait deux choses. D'abord, il fait des liens entre les personnes qui se disent avoir eu des contacts, etc. Il fait une frise chronologique de j'étais à tel endroit, à telle heure, j'ai fait ça ou je n'ai pas fait ça, et j'ai vu telle personne ou je n'ai pas vu telle personne. Et tout le monde, avec tous les témoignages, tout est mis sur cette frise. Et c'est là où Anacrim dit, là, ça marche pas.
Comment vous décririez Anacrim? Personnes, etc. C'est un logiciel.
C'est un logiciel qui de traitement
de données.
De données. Alors c'est comme ça. Mais plus spécifiquement, il traite soit les vocabulaires, soit les horaires, soit les lieux, et il met en concordance ou au contraire en discordance. Et quand il y a une discordance, il faut qu'on s'explique. C'est d'ailleurs pour ça que la garde à vue, en partie, a été déclenchée, parce que dans les versions, il y avait déjà des discordances qui étaient ressorties. Mais là, ça va être encore enrichi avec toutes les déclarations, pour voir s'il y en a de nouvelles, ou au contraire, si les réponses données ont permis de corriger quelques discordances. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a, ce que j'explique souvent, des témoignages faux, mais sincères.
De bonne foi.
De bonne foi. Et parce que l'émotion, parce que l'événement est tellement d'ampleur qu'on oublie des petites choses. Et puis, on a une reconstruction de souvenirs avec toute la masse qui revient par les médias, par autre, ce qui fait qu'à un moment, notre cerveau balaye tout ça.
Boris, Johanna, est-ce qu'on peut parler d'un séisme ou d'une surprise pour les premiers concernés et les conséquences de ce qui s'est passé cette semaine sur ces gardes à vue?
Une surprise, pas vraiment sur les gardes à vue, puisque les grands-parents d'Émile s'y attendaient en quelque sorte, vu que c'était les dernières personnes à avoir vu Émile. Donc forcément, cette piste familiale, elle est étudiée de près par les enquêteurs dans ce sens-là. Ces gardes à vue, elles étaient là pour notamment leur présenter aux grands-parents les nouveaux éléments en possession des enquêteurs. Ça a été aussi l'occasion pour Maître Colombani, l'avocate du grand-père, de son côté, elle aussi, d'apporter de nouveaux éléments. On l'a évidemment interrogé sur la nature de ces éléments. Secret de l'instruction oblige, elle n'a pas voulu nous en dire plus. Donc c'est des gardes à vue où ils ont pu apporter des réponses. Ils ont répondu à toutes les questions. Ils ne se sont pas murés dans le silence, que cela soit pour la tante, l'oncle, le grand-père, ainsi que la grand-mère d'Émile. Ils ont voulu que la vérité ressorte de ces auditions. Les enquêteurs, ils sont allés quasiment au bout de ces gardes à vue, puisque pour le grand-père, c'est 47 heures de garde à vue. Donc aujourd'hui, il ne reste plus qu'une heure de garde à vue, mais c'est terminé, puisqu'on ne va pas les remettre en garde à vue pour seulement une heure, le temps qu'on fasse toutes les démarches. Donc voilà, des gardes à vue qui ont sans doute apporté des réponses dont on n'a pas la connaissance aujourd'hui. Mais oui, on peut parler d'un rebondissement dans cette affaire à suivre désormais maintenant si d'autres gardes à vue vont être déclenchés dans les prochains jours, prochains mois.
Sur les conséquences, c'est-à-dire que c'est une partie de la famille, on imagine que celle qui n'est pas en garde à vue doit regarder ça avec angoisse, stress et en tout cas avec attention, et puis un retour, pas de mise en examen. Donc comment ça se passe?
Déjà pour les gardés à vue, c'est une très très grosse épreuve. Imaginez-vous pendant 48 heures déjà quand vous arrivez, on vous enlève vos lacets, votre ceinture, votre téléphone, donc vous êtes isolé. Il peut y avoir un petit côté voilà fragilisant, humiliant au niveau de l'intégrité physique quand même. Les grands-parents d'Émile sont aussi des parents de jeunes enfants. Je crois que le plus jeune a 8-9 ans, donc ils n'ont pas de nouvelles non plus de leurs propres enfants. Et puis on perd tout rapport au temps, au jour, tous les repères spatio-temporels en fait sont un petit peu floués, donc ça peut créer de la vulnérabilité physique forcément et avoir des conséquences sur voilà les émotions, et tout cela du coup peut engager à des confessions, à des aveux, à des discours qui peuvent se contredire un petit peu parce que la fatigue est dans, donc c'est une grosse épreuve psychologique de tenir à tout cela, c'est très compliqué, et d'en sortir également. Après ils se sont retrouvés, on voit que tous ne réagissent pas pareil, hein. La grand-mère d'Émile, elle est toujours très pudique, dans un repli sur soi, presque invisible. Le grand-père, le soir même, sortait sa lance à eau pour éclabousser les journalistes.
Vous en pensez quoi de ce geste, vous, de...
Ben, moi, je trouve que voilà, il y a un personnage qui ne se contredit pas depuis pas 20 mois, mais depuis les années 90, de ce qu'on connaît de lui, de sa personnalité, de son impulsivité, de son aspect colérique, des violences qu'il a pu connaître, mais on reviendra peut-être avoir infligé. Donc, il est dans la continuité de sa personnalité, voilà.
Parce que c'est vrai, pour l'anecdote, bon, les journalistes sont toujours malvenus, et c'est vrai qu'on dérange dans des moments pareils, mais on a vu des gens qui sortent, qui font évacuer les journalistes. On a vu des gens qui appellent les gendarmes, leur disant « je voudrais être tranquille chez moi ». Mais l'histoire du jet d'eau,
c'est atypique.
Il y a quelque chose dans... Pardon, Ronald, ouais. Il y a quelque chose... Boris, il y a des manquants dans cette histoire. Les parents d'Émile, on n'en parle pas. Donc, les gendarmes ne vont pas les chercher, ils ne les placent pas en garde à vue. Pourquoi? Mais juste avant, ils sont où les parents là?
Alors déjà, les parents d'Émile n'étaient pas là le jour de la disparition, puisqu'ils ont déposé le petit garçon la veille. En revanche, ils ont bel et bien été convoqués lors de la mise en situation le 28 mars dernier, convoqués comme les 15 autres personnes, puisqu'il y avait 17 personnes au total. Et les grands-parents d'Émile, on les a revus, les équipes de BFM TV les ont revus pour la première fois, donc il y a quelques jours, ils étaient de retour au domicile de la Bouilladis. Moi, la dernière fois que j'ai pu les voir, c'était aux obsèques, le 8 février dernier. Mais on ne sait pas comment est-ce qu'ils ont réagi à ces gardes à vue. Du côté de l'avocat des parents d'Émile, c'est blackout total, aucune information de filtre, aucun élément sur leur état d'esprit. On ne sait pas.
Pourquoi on ne les met pas en garde à vue, les parents?
Je peux dire. Hein.
Vous avez l'enquête, vous avez tout le dossier. Pourquoi on ne les met pas en garde à vue?
Mais est-ce qu'il y a un motif plausible de soupçonner qu'ils ont commis ou tenté de commettre le crime?
Mais ce n'est pas parce qu'on est mis en garde à vue qu'on est coupable.
Non.
Mais on pose la question. Pourquoi ils ne sont pas dans l'équipe alors?
Il y a pas de motif plausible. Ils pourront être entendus en tant que témoins.
Il y a le regard purement juridique, hein, les motifs exigés par le code de procédure pénale, et puis il y a quand même la dimension humaine. On a quand même quelques expériences en la matière dans la gendarmerie. Donc, mettre en garde à vue les parents d'une victime, on va quand même très sérieusement y réfléchir à deux fois, pour eux, pour la famille, et puis aussi pour des raisons, pour éviter un emballement médiatique qui serait inévitable en telles circonstances. Donc, les parents des enfants, de l'enfant disparu sont d'abord les victimes. Et avant qu'il y ait suffisamment, s'il y en a, d'éléments dans un dossier pour placer les parents en garde à vue, il faudra que le dossier soit particulièrement étayé, que les gendarmes, valident cette option avec les magistrats instructeurs.
Et on rappelle que garde à vue ne vaut pas mise en examen. La preuve, cette semaine de nouveau. Petite pause dans l'affaire suivante. On reviendra et on tentera de se projeter. Et puis évidemment, après 21 mois de mystère sur ce qu'a dit le procureur, ses éléments, le rôle d'un tiers, le déplacement de ce cadavre, où se trouvait Émile, qu'est-ce qui a provoqué son décès? Réponse dans l'affaire suivante, c'est dans 3 minutes. 13h25, retour en direct sur le plateau d'affaires suivantes. Un rendez-vous à ne pas manquer après cette émission. À 13h55 précisément, votre document Ligne Rouge, enquête exceptionnelle de nos équipes consacrée à la piste criminelle qui a donc ressurgi cette semaine. C'était il y a un an, à 2 km, un an jour pour jour, un an, à 2 km de hameau du Auvernais, une partie des ossements d'Émile était retrouvée par une randonneuse que Boris Kharlamov a interrogée. C'était le 20 mars dernier, voici ce qu'elle disait.
Plus d'un an après, j'apprends qu'aujourd'hui, les gendarmes, les policiers, la justice, enfin toutes ces investigations, la science, etc., etc. Oh, qui continuent malgré tout, ça, je leur suis reconnaissante. Ouais, j'attends qu'on trouve le vilain ou la vilaine qui a fait ça. La vérité. Sans vérité, on n'est rien. Donc voilà, je regarde les infos et je veux qu'on trouve la vilaine personne. Après, si c'est pas le cas, c'est pas le cas, mais bravo les policiers, les gendarmes, la science.
Boris Vou, qu'il avait interrogé, on sent bien évidemment l'émotion qui traduit un peu le choc dont on parlait il y a quelques instants.
Oui, absolument. Mais maintenant, après, elle a encore du mal à réaliser l'objet entre guillemets qu'elle a trouvé. Elle est encore très affectée par cette trouvaille, mais il y a de quoi être un peu plus réconfortée aujourd'hui, puisqu'il y a quelques semaines, juste après les obsèques du petit Émile le 8 février dernier, eh bien les parents d'Émile, via leur avocat, ont adressé à Sadia une lettre de remerciement, une lettre que BFM TV a pu consulter. Et c'est vrai que dans cette lettre, il y a énormément d'émotions. Les parents expliquaient que c'était notamment grâce à Sadia aujourd'hui qu'ils étaient en mesure de faire leur deuil et que Émile et Sadia étaient liés à tout jamais. C'était donc quelques lignes sur une seule et même page d'un courrier. C'est d'ailleurs ce courrier-là qu'elle tient dans l'interview. Et puis à ce courrier, il y avait deux photos d'Émile. Deux photos différentes avec la date de sa naissance, la date de son décès et la date de son baptême. On retourne ces petites cartes et derrière, il y avait une prière. Selon les parents, c'est une prière qu'Émile récitait tous les soirs avant de s'endormir. Donc c'est deux mémentos qui ont été distribués après les obsèques du petit garçon, dont l'avocat a voulu en faire part à Sadia, qui aujourd'hui refuse donc de répondre aux journalistes, et donc sa toute dernière interview le 20 mars dernier avec Célia Vallée au Vernet.
Bruno Kézac, on va revenir sur les enseignements de la conférence de presse du procureur. Ce qu'il dit, c'est traumatisme facial violent, intervention d'un tiers dans la disparition et la mort. Émile déshabillé, ses vêtements conservés, déplacé en partie à l'endroit où il était retrouvé, avec ou pas une volonté qu'il soit retrouvé rapidement. Qu'est-ce que ça dit de ce qui s'est tramé en coulisses ?
Question bien, bien vaste. Alors, c'est ce qu'on peut résumer un dossier comme celui-là. Du coup, je vais aborder ce triptyque que j'évoque sur des dossiers de cette nature, qui est celui de l'hypothèse, du mobile ou de l'explication et du scénario. Aujourd'hui, la difficulté, compte tenu de ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est de plonger très rapidement vers la construction d'un scénario. Alors qu'il nous manque quand même des éléments importants dans la compréhension de cette affaire. Si on peut exclure aujourd'hui définitivement l'idée que Émile est décédé de ses propres... Qu'il se soit perdu. Ça, on peut l'exclure définitivement aujourd'hui, mais on ne peut exclure dans les hypothèses, puisque les hypothèses ont été définies par les magistrats instructeurs. Dans les différentes pistes, soit on est face à un acte volontaire, donc une intention de tuer l'enfant, soit on est confronté à un acte involontaire, c'est-à-dire un geste malheureux, physique ou mécanique.
Ça, c'est le mobile.
Qui a contribué. Alors, s'il n'y a pas l'intention de nuire, on peut plus considérer que c'est une explication qu'un mobile. Et puis derrière, il y a la deuxième incrimination qui est celle du recel de Calal. Alors là, on est véritablement dans une intention de soustraire le corps d'Émile à la découverte des enquêteurs. Donc là, on est vraiment dans une démarche intentionnelle. Et là, il y a un mobile derrière. Là, il y a un mobile. Si quelqu'un a fait ça, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. Donc, il faut déjà qu'on réussisse à décortiquer le dossier sur ces deux points-là avant de commencer à imaginer derrière quel a été le scénario, et notamment le scénario de sa découverte.
Bah oui, parce que... Oui. Pardon, mais si quelqu'un dissimule le corps, a priori, c'est qu'il ne veut pas qu'on sache quelles sont les causes de la mort. C'est ça, ça me semble
Entre autres.
Et ça dit quoi, Johanna, de déshabiller un... qui a été la raison du décès, mais de déshabiller un... Okay. Un jeune enfant, de garder ses vêtements, de le conserver, et puis à un moment, de le remettre à un endroit où, a priori, il sera retrouvé. C'est ça, quel sens ?
Ouais, c'est difficile à dire, et puis il faudrait qu'il s'agisse d'une seule personne, on ne sait pas tout à fait, mais c'est vrai que Imaginez qu'on ait pu blesser au point de tuer un enfant, puis le déshabiller, puis le démembrer pour qu'on retrouve qu'une partie supérieure de son crâne déposée.
Pas forcément. Parce que le corps va se décomposer, dans la nature.
Et okay, pas puis forcément déposer,
le démembrer, le déposer. Et ensuite, la nature fait son œuvre.
Voilà. En tout cas, on retrouve une partie du crâne seulement. Et évidemment, il s'agit d'une personnalité à minima extrêmement perverse, quoi. Voilà. Mais encore une fois, c'est une question tellement, tellement vaste. C'est difficile de répondre à ça. Et en tout cas, c'est cette difficulté quand même à comprendre ce qui se passe, qui nous fait tous réfléchir à de nombreuses hypothèses. On a aussi besoin d'avoir toutes ces réponses. Et c'est pour ça qu'on s'attache, en fonction des gardes à vue, à une personnalité plutôt qu'une autre. Et puis ça change, c'est très compliqué.
Mais en plus de la vérité qui nous manque, il nous manque pas mal de choses. Où Émile est-il mort ?
Exactement.
Donc ça, c'est la scène de crime. Il a été frappé, on lui a donné une gifle ou quelque chose qui a provoqué la mort, mais c'est la scène de crime. On avait un médecin légiste hier qui, sur le plateau, nous disait un fracas facial violent, ça provoque une perte de sang. Donc voilà, ça, c'est la scène de crime. Ensuite, il y a le lieu où il a été entreposé, on l'a transporté, où il est resté pendant visiblement assez longtemps, c'est ce que nous apprend le procureur, où son corps s'est décomposé. Donc ici, il y a des choses à retrouver. Et ensuite, il y a le lieu où on découvre le corps. Donc, on sait qu'il y a un crâne, la partie supérieure, il n'y a pas de maxillaire, qu'il y a quelques ossements, peut-être, c'est ça, Boris?
Oui, c'est ça.
Et puis, des lambeaux de vêtements. Et on nous parle maintenant d'un t-shirt dont on sait qu'il ne le portait pas au moment où son corps s'est décomposé. Donc, on a déposé le crâne, on a déposé d'autres choses, on a déposé le t-shirt, on aurait déposé une chaussure sans les lacets. Qu'est-ce qu'on trouve encore à cet endroit-là?
Des morceaux d'ossements éparpillés, on n'a pas la nature exacte. On sait qu'il y a un crâne aujourd'hui, des vêtements, mais c'est vrai que les enquêteurs sont assez peu loquaces sur, on va dire, le détail des ossements. Mais ces ossements, ils se sont étalés sur plusieurs dizaines de mètres, puisque le crâne est retrouvé à un endroit, 1,7 km, dont les souvenirs, 1,7 km, voilà. À 150 mètres, on retrouve les ossements. Le crâne est déposé à un endroit que la randonneuse avait parcouru 2 semaines auparavant, qui est un endroit qui est extrêmement fréquenté à la fois par les cueilleurs de champignons, les randonneurs. Il y a beaucoup de véhicules qui passent par là. Et ce crâne-là n'était pas enfoui, il était déposé comme s'il y avait une volonté de l'exposer, d'avoir la volonté qu'on tombe sur ce crâne-là. Il y a un sens du timing qui peut aussi interroger, mais voilà, il y a les fêtes de Pâques, et puis surtout, comme Florence le disait, on était 2 jours après la mise en situation. Est-ce que l'auteur du crime a paniqué au vu de l'arrivée des gendarmes pendant presque 8h, 10h au hameau du Haut-Vernet pour cette mise en situation? Est-ce qu'il a senti que l'étau se resserrait? Et est-ce qu'il a senti que c'était le bon moment pour lui de se débarrasser de ses ossements? On espère que l'enquête va pouvoir le déterminer.
Sur la dispersion des ossements, et pour en revenir à ce que disait Johanna, le corps démembré, non, on est plus dans les animaux sauvages, pardon, mais c'est difficile à entendre, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Dans la nature, les animaux sauvages vont faire leur œuvre, travailler, et c'est pour ça aussi qu'on retrouve souvent des corps, des morceaux de corps dispersés. Mais ce crâne, quand même, nous intrigue, parce qu'au début, le procureur nous dit, il présente des traces de griffures, il a été déplacé par les animaux sauvages, et puis là, un an plus tard, conférence de presse après les gardes à vue, et le procureur nous dit, la police scientifique, entre-temps, nous apprend qu'il y a un trauma, trauma facial violent. Comment est-ce qu'on l'a pas vu au départ, ça?
Non, ça a peut-être été vu, ou il y a eu ce qu'on appelle un examen immédiat. C'est-à-dire, c'est un examen sommaire qui permet de voir les premières traces sur les ossements, s'il y en a, sur les vêtements, en fonction de... Et après, il y a toute la partie de laboratoire pure, d'investigation, qui va examiner toutes les fissures, cassures, et voir si la cassure, elle était antémortem ou post-mortem. C'est là, ce n'est qu'après. Et par rapport aux analyses de vêtements et tout ce qu'il y a eu, quand on voit, et là, c'est le mot du procureur qui parle du biotope totalement différent qui aurait été trouvé sur les vêtements par rapport au lieu de la découverte, qui montre que ce sont des examens longs qui ont été faits au laboratoire, à l'IRCGN, dans toutes ces directions, et qui ont permis de conclure que, justement, le corps a été déposé. Alors, pas forcément où on a découvert tous les morceaux, ça peut être déposé un peu en amont et un peu avant, et comme on sait qu'il y a eu quelques épisodes méditerranéens, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas forcément...
Des ravines naturelles.
Et tous les ossements. Et reste la question en suspens. Est-ce que, si j'ai bonne mémoire dans le témoignage de la randonneuse, elle disait je pouvais pas le laisser là. Sous le vent, il bougeait. Est-ce que, on sait, prise au vent, est-ce qu'il a roulé, pas roulé, ou est-ce qu'il a été de nouveau remis là, exprès, pour qu'on le trouve? Voilà.
Alors, je voudrais vous poser une autre question, parce qu'en préparant l'émission avec Ronald, on se disait, il y a quand même, le PROC parle de 9 départements de l'IRCGN qui ont travaillé, 9 services différents de l'IRCGN qui ont travaillé. Alors, il nous dit le département entomologie, le département anthropologie, le département palynologie et d'autres encore. C'est quoi tout ça? Ça alors, sert à quoi tout, en alors, fait, palynologie, c'est quoi?
La palynologie, c'est l'étude des pollens.
D'accord. Alors qu'est-ce en fait, ça nous apprend,
ça nous apprend que s'il a des pollens sur les vêtements, ça veut dire qu'il est dans un environnement où il peut y avoir, c'était l'été, etc., qui ont été récoltés. Sauf que l'environnement pollinique est assez localisé. C'est-à-dire que dans chez soi, si on a une plante qui a du pollen, on aura sur nous du pollen. Mais on va ailleurs, on va transporter ce pollen, on va le garder, et ce ne sera pas le même que l'on va retrouver ailleurs. D'accord. Donc là-dessus, c'est l'étude des pollens.
L'entomologie.
L'entomologie, ben, c'est l'étude des insectes nécrophages. Mais au-delà des insectes, vous avez l'étude des acariens, qui ne sont pas des insectes, mais en gros des petites araignées, ce sont des arachnéides. Et vous avez des acariennes d'intérieur, des acariennes d'animaux, de chevaux, de chiens,
etc. Et ça prouve quoi, ça montre quoi, ça?
Ben, ça montre qu'ils sont, ils vivent à un endroit. C'est...
Ah oui, donc si le corps est passé là, il peut avoir des traces de ces insectes qu'il n'aura pas s'il n'est pas passé dans ce...
Exactement.
Ok, donc l'anthropologie.
L'anthropologie, c'est justement toute l'étude des os. Et les brisures, les cassures, les maladies que l'on peut trouver tout autour. Vous vous souvenez la série Bones qu'il y avait à l'époque à la télévision?
Bones, ce sont les os.
Ce sont les os, et c'était le nom de la série.
Oui, bien sûr, non, mais je vois de quoi vous parlez, mais je précise.
Voilà, et qui permet de voir si on a des fractures antémortem ou post-mortem, et déjà réorienter. Donc là-dessus, on a aussi la mycologie, c'est sur laquelle l'étude a été portée, c'est-à-dire les moisissures, les champignons, les levures, qui sont propres à un seul milieu, et qui sont très importantes lorsqu'on a un corps qui se dégrade, parce que le substrat du corps va nourrir le milieu, et certains champignons ou moisissures vont se développer grâce uniquement à cette thanatomorphose, c'est-à-dire changement de ce corps qui se décompose.
Et là, ça sera l'endroit où on a déposé le corps. On retrouvera ça.
Pas forcément. Ça veut dire que si on ne l'a pas trouvé, on a bien confirmation que le corps s'est décomposé ailleurs.
Ok.
Voilà.
Colonel, on parlait d'une enquête hors norme un peu plus tôt, et quand on écoute, quand on travaille sur le dossier, quand on suit ce qui se passe, évidemment, il y a l'enquête marche sur plusieurs plaies, mais deux principalement. La technologie, et ce dont on parlait, les expertises des années, et l'autre côté, les témoignages, les auditions classiques. Est-ce que vous pensez que l'un ou l'autre permettra à un moment d'avancer de façon plus importante que les avancées que nous avons connues cette semaine?
Pas l'un ou l'autre, les deux.
Les deux.
Et inévitablement ensemble, sur un dossier de cette nature. Il peut y avoir des dossiers plus classiques dans lesquels la dimension scientifique et technique viendra confirmé en appui d'un travail finalement dans lequel la dimension humaine a pu suffire, notamment les dossiers criminels dans lesquels vous avez trouvé l'auteur dans des délais très rapides pour X raisons. Là, dans un dossier comme celui-là, l'un sans l'autre, à titre personnel, je ne vois pas comment c'est possible aujourd'hui, comme dans d'autres affaires de référence, comme l'affaire Flactif, la police technique et scientifique.
L'affaire du Grand Bornand.
Elle est absolument indispensable aux enquêteurs. Encore une fois, pour revenir à ce que je vous évoquais tout à l'heure, cette fameuse construction ou compréhension du mobile et du scénario, dans un cas comme ça, c'est la police technique et scientifique, me semble-t-il, qui va essentiellement aider les enquêteurs à comprendre ce qui s'est passé. Et puis derrière, à savoir qui peut avoir a eu l'explication ou le mobile de ce comportement, et derrière construire un tel scénario, une ou plusieurs personnes d'ailleurs, à ce stade.
Alors si la police technique et scientifique vient au secours des enquêteurs, apporte des éléments, supposons que ce vent, cette remorque à chevaux qu'on voit derrière Florence Roy ici, on trouve des éléments dedans, et que ce soit plutôt... à nouveau, l'occasion de poser des questions au propriétaire, en l'occurrence le grand-père d'Émile. Comment est-ce qu'on fait puisqu'on est au bout de sa garde à vue? Comment est-ce qu'on va le chercher et comment est-ce qu'on le questionne?
On le convoque devant le juge d'instruction en vue d'un interrogatoire de première comparution. Donc, comme si effectivement...
On va le chercher.
On va pas le chercher, on le convoque
priori, on va pas le chercher.
C'est la même ambiance déjà. C'est pas 6 heures du matin, on débarque à la maison.
Voilà, exactement. D'accord. Et d'ailleurs, normalement, la procédure permet à son avocat de consulter le dossier. Il a 5 jours précédant la convocation pour consulter le dossier. Je rappelle qu'à l'heure qu'il est, aucun des avocats n'a connaissance du dossier. Ils ont connaissance des informations qui ont été données dans le cadre de la garde à vue.
Parce qu'ils ne sont pas mis en examen. Leurs clients
sont pas mis en examen. Parce qu'en leur qualité de partie civile, puisque n'oublions pas qu'ils se sont constitués partie civile aussi auprès du juge d'instruction, eh bien, ils ne pouvaient pas avoir accès au dossier parce qu'ils n'avaient pas été encore entendus. Or, la procédure veut qu'on ne peut, en qualité de partie civile, avoir accès au dossier qu'à partir du moment où on a fait l'objet d'une audition devant le juge d'instruction. Quelquefois, le juge d'instruction y déroge parce que c'est possible, parce que l'affaire le permet. Mais dans une affaire aussi complexe où on ne sait pas qui est qui et qui fait quoi, autant vous dire que personne n'a eu accès au dossier pour l'instant et que ce que connaissent aussi bien les anciens gardés à vue, enfin les anciens suspects, que les avocats, ce sont les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la garde à vue pendant 48 heures.
Il y a évidemment toujours beaucoup de questions auxquelles on tente de répondre, on tente de comprendre le pourquoi de cette question-là, mais il y a une certitude, Boris, et vous voulez nous expliquer, c'est que le 8 juillet 2023, au Auvergne, il y a 17 personnes. Et qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'après les gardes à vue de ces 4 membres de la famille, on a réélargi, en tout cas en apparence, le spectre s'est réélargi naturellement.
Oui, 17 personnes. Parmi ces 17 personnes, peut-être le responsable de la mort d'Émile. Quoi qu'il en soit, il y a 5 membres de la famille d'Émile qui sont présents au moment de la disparition dans la résidence familiale que vous voyez à l'écran. Philippe Vedovini, le grand-père, 58 ans. Anne Vedovini, la grand-mère d'Émile, 50 ans. Des oncles, des aunts, des tantes qu'Émile qui sont également présents. Et puis, il y a également 3 membres de la famille d'Émile qui se situent pas à la maison, mais qui sont dans la partie basse du village. À 2 kilomètres en contrebas.
Un mot en 2 parties, le haut et le bas.
Dans le village du Vernet. À cette mise en situation également, la présence des 2 parents, Colomban et Marie-Soleil. Et puis, 2 témoins oculaires qui s'accordent sur la version, à savoir qu'Émile était en train de descendre lorsqu'il a été vu pour la toute dernière fois. Et puis, 5 autres voisins qui ont également participé à cette mise en situation. Cette mise en situation, j'avais pu la suivre pour BFM TV avec Célia Vallée, elle avait duré quasiment 10 heures sous une pluie battante. On avait eu un peu tiqué parce que pourquoi refaire une mise en situation au mois de mars alors qu'il pleuvait, alors que la disparition d'Émile s'est déroulée sous 35 degrés et un grand soleil au mois de juillet 2023. Il n'y avait pas du tout les mêmes conditions météorologiques. Alors peut-être que François Daou, vous avez une explication sur pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas accordé sur les éléments météorologiques pour faire cette mise en situation.
Ça dépend des juges d'instruction qui l'ont souhaité comme ça. Et je pense je suppose qu'il voulait voir les témoignages et accorder les témoignages, non pas pour dire l'enfant est parti par là, etc., etc. C'est ben, 2 témoins qui disent, il y en a un qui descend, il y en a un qui dit il descend, l'autre qui dit qu'il monte. Qui pouvait voir depuis sa fenêtre quelque chose ou pas? On n'était pas sur l'ensemble de la recherche et comment il a pu disparaître derrière toute une végétation luxuriante. On était vraiment centré sur le Auvernais, qui pouvait voir quoi et qui a réellement vu quoi.
Et sur l'emploi du temps de chacun surtout.
Exactement. Et c'est comme ça qu'on a appris récemment que finalement les 2 versions se sont accordées à la fin. Celui qui disait qui montait l'enfant et que l'autre qui descendait, à la fin donnait la même chose. Donc ça veut dire que mise en situation, de là où ils étaient, il y en a un qui avait l'impression que ça montait, alors en fait c'est descendait, ou le contraire, et pareil pour l'autre.
Maître Roas, parce que ceux qui nous écoutent dans l'affaire suivante s'intéressent au judiciaire et pas seulement aux faits, c'est quoi la différence entre une mise en situation, ce que nous racontaient Boris et François Daoust, et une reconstitution?
C'est pas la fait, on a pareil. Justement, on a vérifié tout à l'heure avec le général Daoust l'article 92 du Code de procédure pénale qui prévoit justement cette mise en situation, mais qui ne dit pas mise en situation ni reconstitution. Moi, j'aurais été tentée de penser qu'il y a reconstitution quand il y a déjà le corps et mise en situation quand on n'a pas le corps. Mais manifestement, l'article 92 du Code de procédure pénale ne fait pas la différence. Il parle juste, si vous voulez, d'une décision des juges d'instruction en vue de la manifestation de la vérité, en fait. Donc, c'est une mesure d'instruction supplémentaire. Mais pour répondre justement à ce que disait Boris sur les conditions météorologiques, il me semble que cette mise en situation, peut-être que les magistrats instructeurs n'ont pas tenu compte, effectivement, d'une similitude dans les conditions météorologiques, parce qu'ils voulaient, peut-être, en mettant en situation ces 17 personnes, ou ces quelques personnes, provoquer des réactions. Mmh. Et d'ailleurs, ouais, on le voit après, que deux jours plus tard, ça a bougé.
C'est quelque chose. Colonel, c'est important pour les enquêteurs, ça. Comment est-ce qu'on observe? Mise en situation, reconstitution, on est où, on fait quoi et qu'est-ce qu'on guette? Au bon sens du terme.
Mais je me mets un petit peu à la place de la cellule d'enquête à cette période.
C'est pour ça que vous êtes ici.
ils sont quand même dans un tempo de recherche où ils n'ont pas à part une masse déjà considérable d'informations de toute nature recueillies, ils n'ont pas beaucoup de pistes. Donc il y a un moment, il faut se remettre en, on n'a pas encore trouvé le gamin, faut se remettre un peu en perspective, il faut remettre un peu les choses à plat. Et donc les enquêteurs attendent effectivement déjà, comme l'a dit Maître, de ressembloter un certain nombre de témoignages et puis de les valider, ce qui confirme aussi les pistes qui peuvent être suivies par la cellule d'enquête ou qui les infirme, encore une fois, hein, toujours à charge et à décharge, et donc infirme ou confirme. Dans la notion du temps, il ne faut pas oublier non plus que plus vous attendez, plus la mémoire s'estompe aussi pour les différents témoins. Donc, y a une balance à faire entre la remise en perspective dans la temporalité des faits et puis le moment où il faut, comme je vais prendre un terme un petit peu trivial, mais taper pour rebousculer un peu le dossier.
Interpeller.
Et puis ressusciter de la mémoire chez les différents témoins.
Et alors, est-ce que vous avez avec vous, dans ces cas-là, les comportementalistes de la gendarmerie, les analystes comportementaux, est-ce que vous les faites venir avec vous en disant, tiens, dans la mise en situation, j'aimerais que toi, t'observes telle ou telle personne, dis-moi ce qui paraît bizarre dans leur comportement.
Là, on travaille sur la matière humaine le jour d'une...
Justement, donc ils sont là.
Donc, on a des compétences en gendarmerie, on les sollicite.
Ouais. Ça veut dire oui.
Oui, ils font partie du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, c'est-à-dire au service central de renseignement criminel, qui est en face de l'IRCGN. Et ils sont OPJ. Donc, ils peuvent parfaitement,
officier
de police judiciaire, rentrer dans la procédure. Et ils sont là, non pas pour définir quelque chose où on voit un profiling,
non.
C'est l'observation et surtout essayer de comprendre la personnalité de celui qui est en garde à vue, de façon à aider les enquêteurs à poser les bonnes questions pour que la communication se fasse et pas bloquer une personne.
Parce qu'il faut parler.
Exactement.
Joanne, une dernière question, un peu plus large. Le Haut-Vernay, Émile, ça fait penser, quoi qu'on en dise, au petit Grégory Lépanche-Chauvelin. Est-ce que le nom de cette commune sera désormais indissociable du trauma, quelle que soit l'issue, évidemment, de l'enquête et de cette affaire, pour les habitants et pour le grand public?
La commune et le prénom du petit Émile, vous le rappelez très bien, comme l'affaire du petit Grégory. Il y a eu un processus d'identification si fort, rappelez-vous, dès le début. On n'entendait que des témoignages qui disaient ça pourrait être mon fils, mon petit-fils, mon frère. Il y a eu ces battues citoyennes qui ont vraiment ramené des foules qui ont voulu participer. Tout ça, déjà, c'est des actions qui permettent de lutter contre le trauma, c'est-à-dire ne pas se sentir impuissant, ne pas rester dans la sidération, se sentir utile, participer. Et tous ces rebondissements, ces questions sans réponse, fait qu'on y pense régulièrement. On est tous très proches des informations pour essayer de savoir ce qui est arrivé au petit Émile.
Merci à tous les cinq d'avoir été sur le plateau d'Affaires Suivantes. Merci beaucoup Dominique, on suivra évidemment cette enquête. Vous ne bougez pas dans un instant, je vous lisais votre document, Ligne Rouge exceptionnelle, consacré à l'enquête sur la disparition et la mort du petit Émile. À tout de suite.